I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous. En 1980, alors que la guerre froide semble ne jamais se finir, les services secrets français sont approchés à Moscou par un lieutenant-colonel du KGB qui souhaite leur communiquer des informations sur l'URSS. Il se fait appeler Volodia, mais son vrai nom est Vladimir Hippolytovitch Vetrov. Et le contre-espionnage français le connaît très bien. C'est un ancien athlète qui a suivi avec brio des études d'ingénieur en électronique. Il a été recruté en 1959 par le KGB et affecté à la direction T, l'unité chargée de l'espionnage technologique. L'URSS est effectivement consciente de son retard sur l'Ouest et compte bien s'inspirer des découvertes occidentales pour se mettre à niveau. Vetrov étant francophile et francophone, il est logiquement envoyé à Paris, où il reste 5 ans, de 1965 à 1970, en tant qu'attaché commercial affecté à l'ambassade du RSS. Bon, c'est une couverture classique hein, pour un espion soviétique, et donc logiquement il attire l'attention de la DST, les services secrets français. Vetrov est jovial, bon vivant, sympathique, il parle parfaitement le français. Il fait un peu de trafic de caviar et de produits de luxe. Mais il passe surtout son temps à rencontrer des chercheurs, des hommes d'affaires et des ingénieurs, afin, on leur devine, de leur soutirer des informations ou d'envoyer du matériel moderne vers l'Est. Et lors de ses tournées des meilleurs restaurants parisiens, il rencontre Jacques Prévost, un cadre supérieur de Thomson CSF. Une amitié naît tout de suite entre les deux hommes. Quand en 1970, Vetrov conduit en état d'ivresse et emboutit la voiture de fonction de l'ambassade soviétique, son ami Jacques Prévost la fait réparer au plus vite et surtout discrètement. Et c'est bien à ce genre de service qu'on reconnaît ses amis. Le soviétique peut donc rester à Paris et il a maintenant une dette envers Prévost. Vous ai-je dit que ce dernier est un informateur habituel de la DST ? Peut-être l'aviez-vous déjà deviné. Bref, désormais la DST, par l'intermédiaire de Jacques Prévost, contrôle de très près ce que fait Vetrov. Peu de temps après, celui-ci est envoyé quelques mois au Canada avant de revenir à Moscou. Et pour lui, c'est une cruelle désillusion. Toutes ces années à l'étranger, et en France en particulier, lui font détester la réalité du système soviétique. Sa bureaucratie tatillonne, sa corruption et surtout son incompétence. Il a le sentiment en plus que sa carrière est au point mort. À 48 ans, il n'est que lieutenant-colonel et ne voit pas vraiment d'évolution. Surtout, il est affecté derrière un bureau à la direction des renseignements technologiques et il s'y ennuie profondément. Il passe ses journées à évaluer la qualité des documents secrets volés à l'Ouest. Bref, il ressent une profonde nostalgie de la France. Et cela finit de le convaincre de changer de camp. En novembre 1980, il demande à son frère, qui est un chanteur connu et qui fait alors une tournée en Hongrie, de poster une lettre. C'est un petit mot à destination de Jacques Prévost. Il lui donne de ses nouvelles et lui demande simplement de l'appeler. La DST, informée du courrier, demande à Prévost de ne pas réagir. Un second courrier, transmis par un ingénieur français qui s'est rendu à Moscou, parvient en février 81 et il parle de vie et de mort. Cette fois-ci, le patron de la DST pressent que c'est du sérieux. Mais, et c'est là un gros problème, la DST, c'est-à-dire la direction de surveillance du territoire, n'a logiquement pas d'agent à l'étranger. Comment faire alors pour établir le contact avec Vetrov ? Jacques Prévost suggère le nom de Xavier Hamel. C'est le responsable de l'agence moscovite de Thomson CSF. Alors, il ne connaît rien à l'espionnage, mais il aime l'aventure. Et d'ailleurs, ça doit être un peu dans ses gènes, puisqu'il descend d'un général d'Empire. Pas forcément conscient des risques encourus, il va accepter la mission sans trop poser de questions. « J'aime rendre service », dira-t-il plus tard. On l'aide pas beaucoup, pourtant. Il reçoit une photo de Vetrov, son numéro de téléphone et un simple conseil, débrouillez-vous. Leur rencontre a donc lieu au soir du 5 mars 1981 dans une rue de Moscou. Mais Vetrov a-t-il vraiment l'intention de livrer tout ce qu'il sait ? C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode.